Vous intervenez en appelant le 01 45 24 7000. Thomas nous appelle de l'Oise. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour Monsieur l'État. Est-ce que vous ne pensez pas que les mouvements eurosceptiques européens, dont le FN ou le mouvement 5 étoiles en Italie, ont déjà gagné une partie de la bataille des idées? Et je voulais vous demander également si vous, à titre personnel, vous êtes favorable à l'organisation de référendums dans les différents pays de l'Union.
Merci Thomas.
Merci de cette question. Je pense que oui, naturellement, ils ont déjà gagné parce que la donne a complètement été modifiée. Aujourd'hui, sur beaucoup de sujets, beaucoup de ces mouvements ont pris une allure et ont surtout trouvé beaucoup de consensus dans l'électorat. Ils ont démontré que l'Europe a beaucoup de difficultés. Ils ont démontré surtout que le jeu du bouc émissaire que normalement tous les gouvernements européens font sur l'Europe pour éviter de prendre leurs responsabilités est quelque chose qu'à la fin ne marche pas. Mais le point essentiel, c'est que les mouvements eurosceptiques sont très différents entre eux. On peut pas faire une comparaison entre le Front National et le mouvement 5 étoiles en Italie ou Podemos en Espagne ou le parti libéral de droite autrichien. Ce sont des choses très différentes. C'est pour ça que il y a une activité commune contre l'Europe, mais c'est difficile d'imaginer quelle sera la position constructive qu'ils vont avoir. La question des référendums, je sais qu'on en discute en France aussi. Moi, je pense que le référendum doit être un instrument pour répondre à une question. Mais la question n'est pas posée, c'est-à-dire la question britannique est posée. C'est une question qui est liée à leur volonté de sortir ou de ne pas sortir. Je ne pense pas qu'un référendum sur la même question ait un sens dans tous les pays européens. La question essentielle est de voir quel genre de participation démocratique il faut qu'il y ait sur l'Europe. On a eu et on a un processus démocratique absolument insuffisant. C'est-à-dire que les gens ne savent pas très bien qu'est-ce qu'ils décident en votant pour le Parlement européen ou en votant pour les autres instances. Et là, il y a un problème démocratique. Donc je pense que ce problème démocratique doit être résolu. Moi, je suis un de ceux qui plaident pour l'élection directe du président de la Commission européenne, par exemple.
Vous avez insisté à l'instant, Enrico Letta, sur la différence entre les mouvements eurosceptiques qui composent et qui émergent dans les principaux pays de l'Union. Est-ce qu'il n'y a pas au moins un point commun? C'est l'attitude de ces mouvements à l'égard des vagues de migrants et le refus de les accueillir ou de leur faire une place dans nos pays européens. Est-ce que ce n'est pas ça le point commun aujourd'hui et l'actualité de ces différents mouvements?
Il y a un point commun entre certains d'entre eux, mais pas entre tous. Parce que ce qui se passe en Allemagne, en France, en Autriche, dans les pays d'Europe centrale est différent de ce qui se passe en Espagne ou en Italie. Et là, il y a surtout Espagne, Italie, l'Europe du Sud, la question du chômage des jeunes, qui est la question à la une. Et donc, je pense que la question est plus compliquée parce qu'en plus, j'ajoute, le populisme, comme on dit aujourd'hui, bien que ce terme est assez ambigu, c'est pas une exclusivité européenne. Voyez ce qui se passe avec Trump aux États-Unis. Donc, c'est une question de nos sociétés modernes. People against establishment, les gens contre l'establishment, la possibilité d'avoir des corps intermédiaires qui font une médiation entre l'électeur et ceux qui décident aujourd'hui est mis en cause par l'Internet. Et on a la démocratie, la politique n'a pas encore trouvé les façons de rendre ce changement un changement dynamique. Il faut le faire parce que l'Internet est positif. Ça augmente la participation.
Anthony Bélanger, vous vouliez rebondir sur l'actualité italienne?
Oui, non, je vous avais gouverné vous-même avec Silvio Berlusconi, avec le parti de Silvio Berlusconi. Vous faites partie en fait de ces combinationnaires italiennes qui unissent.
En vérité, j'avais gouverné avec Berlusconi, mais j'avais à la fin débarqué Berlusconi.
Oui,
à moitié de la.
Est-ce que c'est justement pas ces coalitions d'impossibles qui mêlent la gauche, la droite, les partis avec les uns qui ont finalement dégoûté les peuples européens, notamment les Italiens, de la politique classique?
Sûrement, et c'est pour ça qu'on a une réforme maintenant qui cherche à changer les choses, réforme qui élimine le bicaméralisme total qu'on avait en Italie avec deux chambres.
Qui vient d'être voté. Oui.
Et donc maintenant on va avoir un référendum et j'espère que le référendum va passer. Donc il y a une amélioration institutionnelle chez nous pour rendre les choses plus claires. Mais votre question est intéressante parce que moi, par exemple, je pense que les coalitions, quand elles sont faites avec un programme clair, des missions claires,
à l'allemande,
c'est mieux les coalitions qu'un système présidentiel. Je sais que je dis une chose en France qui n'est pas simple à dire, mais un système présidentiel dans lequel vous avez quelqu'un qui gagne au premier tour le 20, le 25% des voix, et puis avec un deuxième tour, quelque chose d'artificiel qui lui donne une majorité totale dans toutes les institutions représentatives, en partant par un 20-25% des voix à lui-même, je pense qu'à la fin, quand vous devez gérer des questions compliquées, ça veut dire des questions sociales compliquées, par exemple, ou des questions de grands choix sécuritaires, et vous avez besoin d'un grand consensus réel dans le pays, c'est compliqué, parce que vous avez tout le pouvoir en main, que vous soyez Sarkozy ou Hollande, c'est pas une question de droite ou de gauche, mais à la fin, vous n'avez pas de coalition, les coalitions aident à créer un consensus, avoir une relation avec le pays qui ne soit pas seulement la relation personnelle du président avec le pays. C'est pour ça que je dis, il faut faire attention à imaginer qu'aujourd'hui, la simplification et la complexité oblige à des relations dans lesquelles vous donnez tout le pouvoir à un pour 5 ans, et puis dans 5 ans, vous revenez. C'est pas ça aujourd'hui, c'est une question beaucoup plus compliquée.
Alors justement, question de Michel par mail, auditeur sur l'actualité italienne. Comment expliquez-vous la faiblesse de votre parti aujourd'hui, le parti démocrate Enrico Letta, et des élections municipales à Rome, la capitale italienne qui est en passe de donner les manettes à Virginie Raggi, mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo?
Mais il est évident, il a une grande fatigue, et cette fatigue risque de donner des résultats inquiétants, compliqués à gérer. C'est une fatigue qui a besoin, je pense, de rentrer sur des rails sur lesquels il faut que les choses soient discutées sur le concret. Donc moi, je suis préoccupé pour la situation.
Une fatigue, qui est fatiguée? Ce sont les gouvernements italiens ou c'est le peuple italien qui est fatigué?
Non, c'est clairement une fatigue qui est liée au fait que la politique n'est plus en condition de donner des réponses claires, faciles. Ouais. Par exemple, les gens n'en veulent plus de politique, de profession, de professionnels de la politique, de gens qui font de la politique toute leur vie. Et là, c'est une réponse qui n'est pas facile à donner dans un système dans lequel vous avez toujours eu des gens qui ont fait de la politique toute leur vie.
Anthony Bélanger.
Je me trompe, vous avez du mal à dire du bien de Matteo Renzi qui vous a viré du gouvernement, un peu pas très poliment quand même. Hein.
Mais vous savez, je vais dire et j'ai dit que je vais voter en faveur du référendum sur la Constitution, donc que voulez-vous de plus?
Ça, vous pouvez pas faire différemment, mais là par exemple sur le Job Act, qui a objectivement créé des dizaines de milliers d'emplois en Italie, vous avez été incapable de dire que ça a été
je suis convaincu que ça a été un pas en avant, mais je dis attention à ne pas imaginer que le seul changement de règles donne la croissance. C'est pas ça. La croissance est donnée par toute une série de choses ensemble desquelles un pays a besoin. Et c'est pas seulement le changement de règles qui est important, mais comme je disais auparavant, Schröder a fait des changements il y a désormais 12 ans, et maintenant on voit les résultats en Allemagne, pas tout de suite. C'est pour ça que il faut aussi comprendre que sur ces sujets, il faut pas imaginer qu'on a le bâton magique.
Donc Matteo Renzi, il faut attendre un peu.
Non, c'est pas seulement Renzi, c'est en général sur la situation des réformes. Il faut que les réformes soient appliquées, il faut pas seulement les énoncer.
En français, c'est une baguette magique.
Pardon.
Plutôt qu'un bâton. Le bâton est plus pour frapper.
Vous avez toujours la baguette.
Pour faire la magie.
On a le bâton,
voilà. Et on a du bâton, malheureusement, aussi. Benjamin nous appelle de Saint-Ouen au Standard Inter. Bonjour, Benjamin.
Oui, bonjour, monsieur Cohen. La critique de l'éventuel Brexit par les technocrates européens et par la Commission de Bruxelles ou par monsieur Letta lui-même, qui est représenté à la Commission européenne, je crois.
Je représente moi-même.
D'accord. Est-ce qu'elle ne va pas participer encore plus à la défiance envers les administrations européennes et envers le projet européen? C'est-à-dire que ça va éloigner un peu plus le peuple, les peuples et la souveraineté des peuples du projet européen.
C'est-à-dire que vous devriez constater, regarder quelle sera la position et le vote du peuple britannique sans discuter des éléments de campagne, Benjamin?
Pas vous, Monsieur Cohen, mais globalement, la Commission européenne ferait mieux de se taire et d'attendre. Ce qui s'est passé en 2005, elle avait critiqué le non au référendum. La France a voté non et en plus Nicolas Sarkozy. Et donc ça provoque plus de la crispation que de l'adhésion à l'Europe derrière. Et c'est assez triste.
Merci Benjamin. Enrico Letta.
Moi, je ne sais pas ce que peu de doigts ou devrait faire la Commission européenne. Moi, je dis ce que je pense, c'est-à-dire je dis que pour nous tous qui sommes ici, qui écoutons cette émission, le Brexit va avoir des conséquences. Parce que l'Angleterre, la Grande-Bretagne va sortir du marché unique européen. Ça veut dire que tous ceux qui travaillent avec la Grande-Bretagne, avec Londres, qui travaillent à Londres, tous ceux qui font du commuting avec l'Eurostar entre Londres et Paris, j'en connais beaucoup. Moi aussi, j'y vais parce que Sciences Po a des coopérations avec London School of Economics et King's College. Tout ce monde-là, ça va changer complètement. Il va y avoir probablement des nouveaux traités de commerce entre l'Europe continentale et la Grande-Bretagne. Tout va être plus compliqué des relations entre l'Europe continentale et la Grande-Bretagne. Et quand on dit tout va être plus compliqué, tout va coûter plus. Donc, il va y avoir un manque de croissance, de compétitivité. Ça va changer les choses en pire.
Anthony Bélanger.
Est-ce que vous dites vraiment ce que vous pensez? Parce qu'une partie des fédéralistes européens, finalement, regarderait le départ de la Grande-Bretagne comme une espèce de soulagement. Oui. Au fond, les Grands-Bretons sont ceux qui poussent le plus de problèmes à l'Europe, qui l'empêchent d'être fédéral.
J'ai cité Delors tout à l'heure, mais Rocard a dit la même chose.
Écoutez, je ne suis pas d'accord avec eux. Parce que normalement, je ne suis pas d'accord avec eux, parce que normalement, on emploie, ça c'est mon expérience, hein, dans les lieux dans lesquels j'ai vécu dans ma vie politique précédente, européenne, on emploie le nom britannique comme alibi quand on veut pas dire vous-même que vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose.
Comme les Pays-Bas, comme d'autres pays d'ailleurs, qui font la même chose, qui se plantent derrière les Britanniques, c'est vrai.
Les Britanniques ont eu et ont joué des rôles que, de mon point de vue, sont importants pour le marché unique. Les Britanniques ont été beaucoup plus positifs, les Britanniques, que les Français ou les Allemands, qui étaient beaucoup plus soucieux de maintenir des positions de conservation.
Mais il y aura clarification, c'est positif la clarification. Si les Anglais s'en vont, vous allez vous retrouver avec une Europe continentale qui vous voudra probablement en grande partie d'être d'une Europe fédérale, c'est ce que souhaitent les plus européens d'entre nous.
Non, mon point est qu'on doit avoir une Europe continentale, les pays de l'euro, plus intégrés entre eux, mais il faut le faire en maintenant la Grande-Bretagne dans un deuxième cercle, parce que le rôle de la Grande-Bretagne, réfléchissez aussi à la question de sécurité. La Grande-Bretagne joue un rôle essentiel, défense, militaire, donc il faut qu'on soit unis. La Grande-Bretagne joue un rôle essentiel dans le côté commerce international, c'est pour ça qu'il faut être ensemble. Sans eux, on va être plus faible, ça c'est ce que je pense.
Enrico Letta, ancien Premier ministre italien, vous restez avec nous, on va accueillir Augustin Trapenard ici présent dans un instant et retrouver Vincent Dedienne qui va nous parler de SF.